gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.
Le soleil pointe son nez et que les températures s'élèvent, c'est la même rengaine. Les bords de mer sont irrespirables. Le spectacle est désolant. Ça dure depuis un certain temps maintenant. C'est le poison des Bretons. Les algues vertes sont une plaie pour cette région. Malgré les efforts consentis pour s'en débarrasser, elles sont toujours là. Ce qui exaspère les habitants bien sûr, mais aussi les touristes et les acteurs économiques. Vous aurez compris que c'est autour des algues vertes que va tourner ce numéro de La Grande Bleue. C'est surtout un mal breton dont, hélas, on parle peu ou pas assez, déplore ceux qui montent au créneau pour s'élever contre l'invasion des algues vertes. Ceux-là même ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que le dossier était brûlant. Je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai sollicité des interviews auprès de plusieurs incontournables du dossier qui m'ont systématiquement invoqué des plannings surchargés. Il faut d'abord remettre les choses dans l'ordre et rétablir certaines vérités. Les algues sont bien une tragédie du littoral breton, mais elles prolifèrent partout ailleurs en France, dans les lagunes méditerranéennes, le bassin d'Arcachon, en Pays de la Loire et en Normandie. D'accord, c'est en Bretagne que l'on en croise le plus. On en ramasse chaque année entre 30 000 et 60 000 tonnes, réparties sur une cinquantaine de sites de production, tout dépend de leur accessibilité. Ça, c'est ce que l'on ramasse. Mais les sols bretons en produisent beaucoup plus, entre 100 000 et 200 000 tonnes chaque année. On trouve même des algues vertes partout dans le monde, de la Chine en passant par les États-Unis et les pays nordiques. Le phénomène est connu depuis au moins les années 1950, mais c'est en 1970 qu'il s'est révélé en France. Et devinez où ? En Bretagne, dans la baie de Lannion exactement. Des procès-verbaux de l'époque font état des nuisances causées par les algues vertes sur les plages de Saint-Michel-en-Grève. C'est depuis 1978 que l'on tire des bilans d'échouage des algues vertes sur les plages de notre pays. Autrement dit, cela fait un peu plus de 35 ans que l'on chiffre les dégâts et que l'on constate que ces algues ne cessent de proliférer. Il est vrai, de manière plus ou moins cyclique. Les algues vertes s'échouent tous les ans, à des degrés d'envahissement différents. Il y a des années où l'invasion est marquée, d'autres où elle l'est moins. Cela varie selon les conditions météorologiques et tropiques. En gros, s'il fait beau ou pas, si les algues sont accessibles ou pas. C'est dans les années 2000 à 2010 que les algues vertes se sont réellement faites connaître du grand public français. Les plages de Bretagne en étaient recouvertes, à tel point qu'en 2010, les femmes et hommes politiques du moment étaient venus en pèlerinage pour constater et s'apitoyer sur les dégâts. Cela faisait pourtant 50 ans que les Bretons avaient maille à partir avec ce végétal et que peu de hautes instances s'en étaient préoccupées. Ce qui avait surtout fait déplacer les foules d'élus, c'était qu'un cheval était mort et son cavalier grièvement blessé des suites de leur promenade sur une plage recouverte d'algues vertes. Cela avait suscité un fort déballage médiatique autour de cette cause, car jusqu'alors, quand on y faisait allusion, c'était pour la mauvaise image que renvoyaient ces algues et pas pour le danger qu'elles représentaient. Depuis 2010, les algues vertes amorcent un léger recul dans notre pays, notamment en Bretagne. Mais elles sont encore trop présentes, regrettent les associations de protection de l'environnement et de défense des territoires. Ce recul doit être tempéré. D'abord parce que la courbe tend à remonter depuis 2015. Ensuite, parce que ce recul est certes le fait de quelques changements de comportement et d'application de règlements, mais qu'il est surtout la concomitance d'événements, entre autres l'effort de ramassage et le battage médiatique autour des algues vertes, font remarquer les observateurs. Il faut aussi mettre au crédit de cette amélioration la dénitratation, notamment des stations d'épuration des zones les plus touchées par les algues vertes, en baie de Saint-Brieuc par exemple. C'est malgré tout dans cette baie que l'on en ramasse toujours le plus aujourd'hui en France. La cause des algues vertes est identifiée depuis un certain temps. Il est clairement établi qu'elle est d'origine agricole. Il faut en fait que la lumière soit importante, que la température soit agréable et que les nutriments soient abondants pour qu'il y ait une prolifération d'algues vertes. Les nutriments ne sont autres que les nitrates, qui sont émis par les activités agricoles, particulièrement l'élevage et l'épandage. Ces activités produisent des quantités élevées d'azote. Azote que l'on retrouve sous forme de nitrates dans la terre, qui sont conduits à la mer et dans les nappes phréatiques, sous l'effet du lessivage des sols par les eaux de ruissellement et de pluie. La particularité de l'algue verte, que l'on nomme aussi scientifiquement ulve, est de proliférer dans la niche écologique dans laquelle elle se trouve. C'est une macro-algue opportuniste. Cette espèce, du groupe des chlorophycées, est dite annuelle. Elle vit depuis l'étage supérieur du littoral jusqu'à l'infralittoral. Le thal, ou corps végétatif de l'ulve, est constitué de deux couches de cellules accolées, comme la laitue, d'où son nom de laitue de mer. Pour se développer, l'algue verte a donc besoin d'un important apport d'azote, on l'a dit, mais également de phosphore. C'est pourquoi elle trouve son bonheur en terre bretonne, car la région est très agricole. Pour que l'ulve prolifère, il faut qu'elle niche en fond de baie, sur des plages sableuses à faible pente. Ces mêmes plages doivent être soumises à une houle relativement forte et à des apports directs d'eau douce chargée en sel nutritif. L'algue verte se développe rapidement, au point d'en devenir envahissante. Les scientifiques la qualifient de chien dent, car son rythme de prolifération est d'environ 40% par jour. Comprenez que lorsqu'elle se pose sur un morceau de plage, elle s'étale le lendemain sur près de la moitié de plus de sa surface de la veille. C'est impressionnant. On a longtemps pensé que c'était les élevages de porcs qui étaient les plus gros pourvoyeurs d'azote. Ils en sont, mais ils ne sont pas les seuls. Ce sont surtout les élevages de bovins qui sont pointés du doigt dans la cause des algues vertes, notamment les animaux qui répandent leurs déjections à proximité et dans les cours d'eau. C'est la raison pour laquelle on trouve en Bretagne des communes qui exigent des mesures de contention des animaux en dehors des zones de proximité avec les ruisseaux et les rivières. Cela fait partie des mesures qui sont prises localement pour diminuer les apports de nitrates. De leur côté, les éleveurs de porcs traitent davantage leur lisier. Ils épandent moins aussi, ce qui contribue à une baisse significative, mais non moins insuffisante, des taux de nitrate dans les cours d'eau, donc à une prolifération des algues vertes sur les rochers et les plages. Pour limiter les phénomènes d'eutrophisation, comprenez de détérioration de l'écosystème aquatique par la prolifération d'algues planctoniques, les taux de nitrate doivent se situer autour des 10 mg par litre d'eau. On a atteint dans certains cours d'eau bretons les 80 mg par litre. Si on s'en tenait entre 10 et 15 mg de nitrate par litre d'eau, on diminuerait de moitié la prolifération des algues vertes, ce qui serait déjà un progrès, ce qui n'est pas encore fait. Heureusement, les algues vertes ne sont pas nocives pour l'homme. Pour preuve, c'est que leur deuxième vie se passe sur la terre. Elles servent d'engrais naturels. Elles sont soit compostées, soit épandues, selon des règles strictes, directement sur les terres. Ce qui est dangereux avec les algues vertes, c'est leur concentration en un endroit. Car en se décomposant, elles forment une croûte blanche qui renferme un gaz appelé hydrogène sulfuré, plus communément nommé H2S. Lorsqu'il est respiré dans des fortes proportions, ce gaz provoque des œdèmes pulmonaires et devient mortel. Il a déjà décimé de nombreux sangliers, plus récemment un cheval et il y a peu un jogger. Il faut savoir que le dégagement d'H2S en haut de certaines plages bretonnes constitue un danger. Il est un risque pour la santé des promeneurs, mais également pour celle des habitants. Le gouvernement a annoncé la sortie d'une carte pour répertorier les sites à risque d'hydrogène sulfuré. Il n'a pas précisé pour quelle date. Les trop grandes concentrations d'ulves posent aussi des problèmes pour la faune et la flore. Plusieurs études universitaires rapportent des diminutions des espèces, sans compter les nuisances visuelles et olfactives. Les algues vertes en décomposition enlaidissent le paysage et sentent mauvais. l'aurez compris, les algues vertes ont un impact pour les régions dans lesquelles elles sont massivement présentes. Les conséquences sont d'une part sanitaires. Plusieurs actions sont et ont été d'ailleurs menées à ce titre par des associations contre l'État au titre de la mise en danger de la vie d'autrui. Elles lui reprochent de ne pas faire respecter les règles, particulièrement la directive eau, qui oblige à faire baisser significativement le taux de nitrate par litre d'eau et à retrouver un indice poisson dans les rivières. On en est loin, fustigent les associations. Elles ont déjà été suivies par les tribunaux. Elles implorent les agriculteurs d'abandonner le productivisme et de revenir à une agriculture paysanne, sans nitrates, sans pesticides, sans antibiotiques. Elles aspirent aussi que l'on retrouve les plages et les cours d'eau d'autrefois. Les conséquences des algues vertes sont aussi économiques. Les touristes rechignent à étendre leurs serviettes sur des plages malodorantes. L'image de la Bretagne, particulièrement des Côtes d'Armor, pâtit de cette mauvaise publicité. Certains professionnels se plaignent des baisses de rendement dans les lieux où se concentrent les algues vertes. D'autres déplorent les surcoûts de production qu'elles entraînent. C'est le cas des conchyliculteurs qui doivent débarrasser leurs poches d'huîtres des algues vertes qui s'y agrippent, ce qui induit un surcoût de main-d'œuvre. Il n'y a pas 50 solutions pour limiter la prolifération des algues vertes. Il faut diminuer de façon drastique la production des nitrates. Cela impose une refonte du système agricole, plus particulièrement des méthodes d'élevage. Il faut diminuer les intrants, c'est-à-dire les fertilisants. Il faut favoriser l'agriculture fourragère et la bio-agroécologie. Il ne faut plus se contenter de limiter à la marge le système intensif. Il faut privilégier les systèmes respectueux de l'environnement. De leur côté, les acteurs locaux doivent poursuivre leurs efforts. Ils doivent continuer de militer et d'agir contre les épandages. Ils doivent inciter au changement des cultures, notamment à recouvrir les sols en période hivernale et à restaurer les zones humides, car elles ont un rôle épurateur. Les acteurs locaux doivent continuer d'être des ambassadeurs. Toutes ces bonnes résolutions mettront du temps à produire leurs effets. On peut les estimer à plusieurs années. Ce sont entre autres des élevages de bovins que peuvent venir ces améliorations. Ce sont eux qui offrent le plus de marge pour désintensifier les modèles. Si le premier plan de 2010 de lutte contre les algues vertes n'a pas été un total succès, il faut que celui qui est à l'étude le devienne. Partout où des bonnes mesures ont été prises et des politiques cohérentes menées, les pollutions par les nitrates ont baissé, donc les algues vertes ont reculé. Il y a dès lors tout lieu de penser que l'on est sur la bonne voie et que peut-être les plages de Saint-Brieuc et d'ailleurs retrouveront bientôt leur attractivité. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Bleue.
Au gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chevaux.